Merci d'écouter RFI, 2h à Kiev, minuit en temps universel.
Mathis Limano.
Volodymyr Zelensky prêt à démissionner de la présidence ukrainienne. Mis sous pression par Donald Trump, il se dit prêt si cela peut faire revenir la paix en Ukraine. Volodymyr Zelensky qui conditionne cette démission à une adhésion de son pays à l'OTAN. On revient sur ses propos dans un instant. L'Allemagne connaît son nouveau chancelier. Friedrich Merz, chef de la CDU, est arrivé en tête des législatives ce dimanche. Mais former une coalition dans un paysage politique éclaté peut être une gageure, vous l'entendrez. Et puis des nouvelles de l'état de santé du pape. François, toujours hospitalisé à Rome pour une pneumonie. Son état est critique. Reportage à suivre auprès de fidèles catholiques. Volodymyr Zelensky prêt à démissionner donc en échange d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Déclaration lors d'une conférence de presse ce dimanche à Kiev. À la veille du 3e anniversaire de l'invasion russe, le président ukrainien a cherché également à tempérer les attaques de Donald Trump. Qualifié par ce dernier de dictateur sans élection, il a donc ouvert la porte à sa démission, si cela pouvait aider à faire avancer le processus de paix, Anne Verdaguer.
Volodymyr Zelensky dit ne pas être offensé par les propos de Donald Trump qu'il a traité de dictateur. Quelqu'un serait offensé par le mot dictateur s'il était un dictateur, alors que je suis un président légitimement élu, a-t-il ajouté. Il dit vouloir rencontrer Donald Trump avant un possible sommet entre ce dernier et Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky a aussi mis sa démission dans la balance.
Si l'on parle de la paix en Ukraine et qu'en échange je dois quitter mon poste, je le ferai. Deuxièmement, je le ferais aussi si c'était la condition pour adhérer à l'OTAN. Ma priorité, c'est la sécurité de l'Ukraine aujourd'hui et pas dans 20 ans.
Concernant un possible accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens, le président Zelensky a répété qu'il ne pourrait pas y avoir d'entente avec les États-Unis aux conditions posées par Washington, critiquant une nouvelle fois le montant largement surévalué de l'aide fournie par les États-Unis à l'Ukraine, estimée à 500 milliards de dollars par la Maison-Blanche, une déclaration trompeuse destinée à affaiblir son pays, selon lui. Enfin, le président ukrainien a estimé que pour mettre fin à la guerre, il ne pouvait se laisser gouverner par les émotions, mais qu'il devait agir avec pragmatisme et qu'il était disposé à conclure un accord avec toute personne dite sérieuse.
C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron s'est envolé pour les États-Unis. Le président français part plaider la cause de l'Europe et de l'Ukraine auprès de Donald Trump. Alors que le président américain se montre de plus en plus hostile vis-à-vis de Kiev, jeudi ce sera au tour du premier ministre britannique Keir Starmer d'être reçu à la Maison-Blanche. Les deux dirigeants français et britanniques qui ont félicité les conservateurs allemands pour leur victoire. Emmanuel Macron déterminé à faire de grandes choses avec l'Allemagne. La CDU de Friedrich Merz, appelé à devenir le nouveau chancelier, a récolté près de 30% des voix aux législatives anticipées. De quoi placer le parti en tête devant la formation d'extrême droite AfD, le SPD d'Olaf Scholz. Mais un score qui ne rendra pas simple la composition d'une coalition stable, comme le souligne Sébastien Haas, militant de CDU et ancien cadre du parti, au micro de Pascal Thibault.
Ce qui est clair, c'est que le gouvernement précédent d'Olaf Scholz vient à sa fin. 3 ans d'agonie politique touchent à leur fin. L'Allemagne va avoir un nouveau gouvernement dirigé par Friedrich Merz, qui dans les jours à venir va très vite entrer en contact avec le potentiel partenaire pour former un gouvernement. Les Allemands demandaient et aspiraient à autre chose. Ils voulaient un changement de politique. Le scrutin de ce soir démontre que la CDU, avec Friedrich Merz à la tête, a reçu le mandat pour mener de l'avant ce changement politique pour l'Allemagne. Nous avons, ce qui est important, c'est que l'Allemagne retrouve un gouvernement stable et fiable pour les Allemands et pour l'Europe. Nous vivons dans les temps dramatiques. Friedrich Merz a formulé un cap très clair sur les grands axes, que ce soit l'économie, l'Europe, les questions migratoires. Ce sont ces propositions qui ont obtenu le plus de voix aujourd'hui et qui seront la base de toute négociation avec d'éventuels partenaires politiques pour la formation d'un gouvernement.
Et alors que Donald Trump parle d'un grand jour pour l'Allemagne après la victoire de Friedrich Merz, le nouveau chancelier a érigé en priorité absolue la sécurité de l'Europe, et ce pour parvenir à une indépendance vis-à-vis des États-Unis. L'émissaire américain pour le Moyen-Orient sera cette semaine dans la région. Objectif pour Steve Witkoff, faire progresser les négociations sur la suite de la trêve, alors que ce dimanche, Israël s'est dit prêt à reprendre les combats à Gaza. La première phase du cessez-le-feu est censée prendre fin le 1er mars, mais les négociations prévues pour la suite n'ont toujours pas démarré. La décision israélienne de ne pas relâcher comme convenu plus de 600 prisonniers palestiniens fragilise un peu plus la suite du processus. Le premier ministre ministre Benjamin Netanyahou pointe du doigt les cérémonies humiliantes autour des libérations d'otages à Gaza. Le Hamas, lui, dénonce une violation de l'accord de trêve. Le pape François, toujours dans un état critique, annonce du Vatican dans son dernier bulletin de santé publié dimanche soir. À 88 ans, le souverain pontife est hospitalisé pour une pneumonie depuis le 14 février dans un hôpital de Rome. Reportage d'Éric Sénanc au Vatican, place Saint-Pierre, avec des fidèles venus apporter leur soutien au pape.
Dans un texte lu aux fidèles à l'heure de la prière de l'Angélus, le pape explique poursuivre avec confiance son hospitalisation à l'hôpital Gemelli et remercie également les médecins qui le prennent en charge depuis bientôt 10 jours. On ne sait pas quand ces lignes ont été écrites, probablement avant la dégradation sérieuse de sa santé samedi. Et pour certains fidèles comme Mara, venue de Padoue dans le nord de l'Italie, il ne faut pas céder au discours alarmiste.
Mais je suis fiduciosa.
Moi j'ai confiance, je ne pense pas qu'il nous abandonne encore. Même si beaucoup dans le monde sont pessimistes, il est âgé certes, mais la tête est là et surtout le cœur et l'esprit.
Ce dimanche, des milliers de diacres sont venus du monde entier à l'occasion du jubilé. Lors d'une messe dans la basilique Saint-Pierre, c'est une homélie de François qui a été lue, une manière de rester en contact spirituel avec les fidèles. Pour Bernard, venu de l'île de la Réunion, l'absence du souverain pontife reste une épreuve pour lui, mais également pour l'Église.
Je suis triste, bien sûr, à cause de son état de santé, mais aussi parce que j'ai fait 11 000 kilomètres. Nous avons besoin du pape François. Il a déjà fait un travail considérable. Maintenant, pourra-t-il poursuivre sa mission ? Dieu seul le sait. En tout cas, nous, nous prions et nous souhaitons vivement qu'il se rétablisse, au moins pour lui, si ce n'est pour nous encore.
Le prochain bulletin de santé du pape François devrait être communiqué par le Vatican en début de soirée. Éric Sénanc, Rome, RFI.
Le pape François continue de recevoir de l'oxygène à haut débit. Il reste conscient et n'a pas subi de nouvelles crises respiratoires depuis samedi soir, indique le Vatican. Toujours à Rome, le vol American Airlines 292 autorisé à repartir de l'aéroport Fiumicino après inspection des forces de l'ordre. Les termes de la compagnie aérienne après qu'un de leurs appareils ait été dérouté vers l'aéroport de Rome escorté par l'armée de l'air italienne. Il reliait New York à New Delhi, mais une alerte à la bombe a contraint l'appareil à changer de route. Les 199 passagers ont été débarqués et ont reçu de l'assistance, a précisé American Airlines. L'appareil devrait reprendre sa route ce lundi vers New Delhi. Il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, mais accepte d'être remis aux autorités françaises. Le narcotrafiquant Mohamed Amra, criminel le plus recherché de France, après 9 mois de cavale, il a été arrêté en Roumanie. Il devrait être transféré dans les 30 jours, selon son avocate. Mohamed Amra, multirécidiviste, s'était échappé en mai dernier pendant un transfert. Un commando avait attaqué son fourgon, tuant deux agents pénitentiaires. Ce week-end, 10 complices présumés ont été interpellés dans cette affaire. C'est le fruit de négociations entamées il y a 2 ans au Salon de l'agriculture. Les professionnels de la pêche ont profité de l'événement pour signer un contrat stratégique de filière avec l'État. 700 millions d'euros alloués au secteur pour financer la transition énergétique de la pêche française, mais aussi répondre aux attentes des consommateurs et enfin renouveler une flotte vieillissante, Claire Fage.
Le président du Comité français des pêches l'a reconnu, ce contrat stratégique va permettre de rebondir après de multiples crises et de projeter une filière qui aujourd'hui est mise à mal. Deuxième d'Europe après l'Espagne, la pêche française répond peu aujourd'hui au goût des Français qui préfèrent le saumon et les crevettes d'importation au merlu ou à la sole. Près de la moitié des marins pêcheurs doivent partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent et un quart de la flotte a disparu depuis l'an 2000 avec des bateaux aujourd'hui âgés en moyenne de 30 ans. Les 700 millions d'euros qui proviendront de la fiscalité prélevée sur les éoliennes en mer sont censés contribuer au renouvellement de cette flotte française de pêche et à décarboner les navires et les ports. On a besoin de ces aides pour avoir des bateaux modernes et attirer des jeunes, a commenté le secrétaire général de la coopération maritime. Ce n'est pas parce qu'on construit des navires qu'on pêchera plus puisqu'il y a les quotas, poursuit-il. La surpêche reste cependant un défi, même si elle a diminué. 22% des débarquements sont toujours issus de populations surexploitées ou même effondré de poissons.
Victoire historique pour le 15 de France dans le tournoi de rugby des 6 nations. Avec 73 points marqués contre l'Italie, les Bleus battent leur propre record dans la compétition, battant également celui du nombre d'essais inscrits, toutes nations confondues, détenues jusque-là par l'Angleterre. Et puis, les Parisiens sur une autre planète. Après leur qualification facile contre Brest en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique sont allés s'imposer 3-2 sur la pelouse de Lyon en clôture de la 23e journée de Ligue 1.